Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Retour de The Voice samedi prochain sur TF1. Comment la chaîne sélectionne les candidats. Reportage exclusif de Laurent Marsic au cœur du pré-casting de l'émission. 6 ans après son premier album, le grand retour de son dernier album, le grand retour d'Yves Duteil, le chanteur publie Respect, au sommaire également du journal musical de Stephen Bellery, le deuxième disque de, alors on prononce comment là,
Olicis.
Merci beaucoup, alias Cécile Cassel, là je vois mieux, la fille de Jean-Pierre et la tournée française de Rock Voisine. Colombe Schneck publie Les guerres de mon père, un roman en quête bouleversant sur celui qui lui a donné la vie, Bernard Lehu, a rencontré l'auteur. On n'oublie pas les express du jour livrés par Olivia Leray. Et puis votre soirée télévisée, Isabelle Morini-Bosque a choisi Gone, la nouvelle série policière de TF1. Et tout le monde joue avec la musique sur France 2, présentée par Nagui et Bruno Guillon.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
C'est un des événements télé de la semaine, le retour de The Voice sur TF1, 7e saison. Et pour la première fois, Laurent Marsic, la production vous a ouvert les portes des castings dits sauvages. Voilà, on est bien avant les auditions à l'aveugle.
Hein. Oui, on est en octobre 2017. Nous voici en banlieue parisienne avec Bruno Berberès. C'est le patron des castings. Il s'apprête à auditionner les derniers candidats trouvés partout en France.
Ah oui, là, c'est vraiment le premier contact, juste avant le grand saut, si jamais on les sélectionne. Après, l'étape d'après est très importante, c'est le choix de la chanson. Et puis après, on va leur présenter Olivier Schultes et toute son équipe de musiciens pour monter le morceau. Puis après, on va présenter notre patchwork d'artistes au diffuseur, à TF1. Et puis, avec TF1, le diffuseur, on va choisir les artistes qui vont passer devant les fauteuils.
Alors, dans les couloirs, on se concentre, des vocalises, des notes planent dans l'air, on dirait une fourmilière de chanteurs. À l'étage, un tout petit studio.
Alors, tu vois, c'est fait à la... c'est bricolo-bricolette, hein. Mais c'est ça qui est drôle, c'est folklorique.
Folklorique donc, un ampli, un micro, un clavier.
On va partout, on essaye de faire en sorte que rien ne nous échappe. Comme nous ne sommes pas sectaires dans les styles musicaux, on va dans les festivals de musique classique, médiévale, dans les églises, puis on va aussi dans les festivals de musique de métal, on va aussi dans les karaokés, dans les boîtes à chansons, le jazz, enfin vous voyez bien la programmation. On va même dans les mariages, dans les baptêmes.
Et les mariages et les baptêmes, c'est parti pour 2 minutes maxi.
Comment t'es branché sur le casting toi?
J'ai chanté à leur fille.
Ah, je t'avais vu à l'Orphée alors, d'accord, bah, c'est vieux ça. Ne fais pas des choses pour me plaire, fais des choses pour te plaire toi.
Stop, repense à tes mots, de quoi tu me parles, machin peu tes mots, tes
2 minutes plus tard, verdict.
Simple, il y a Lauria qui va t'appeler d'ici 48 heures pour te dire une de ces trois choses. Bienvenue cette année, l'année prochaine ou jamais. D'accord, okay. Je pense pas que ce sera jamais, donc ce sera l'un des deux cas en fonction de ce dont j'ai besoin.
On enchaîne avec une jeune fille qui se présente, elle a 18 ans, magnifique, Capucine.
Eh bien, on se met derrière le micro. Donc, Capucine, comment t'as été branchée?
Eh bien, super.
Oh oui, je me souviens.
Eh oui, s'il se souvient, c'est parce qu'elle a posté une vidéo il y a 4 ans de la fête du lycée où Capucine chantait ceci.
Et l'Amérique, je veux la voir.
4 ans plus tard, elle est venue avec ça.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fantôme, baby, ta soeur.
Et là, Bruno Berberès échange des regards avec Mathieu Notbar, le directeur de la communication d'ITV, le studio qui produit The Voice. Quand ça match, on fait monter le producteur artistique de l'émission, Pascal Guix.
Je sais pas si vous avez le temps, toi et ta maman, mais j'aimerais beaucoup qu'on... En fait, on a une salle en dessous, on fait des répétitions. J'aimerais beaucoup qu'on puisse descendre et que je suis curieux d'en savoir plus sur toi et qu'on avance un peu sur ce chemin.
Bon, bah alors, il se passe quoi dans la salle en dessous?
Ils ont carrément remonté le plateau de The Voice avec l'orchestre au complet. Mais c'est un endroit un peu secret, alors on va laisser Pascal Guix vous expliquer.
On est face à un rideau, là. Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Alors, derrière, on prépare la saison 7 de The Voice, c'est-à-dire que nous faisons les répétitions qui vont servir à faire des auditions à l'aveugle. C'est un orchestre qui répète depuis déjà presque un mois, à peu près une centaine de titres déjà.
Retour à l'étage, voici Marc, canadien. Lui est arrivé dans le casting comme ceci.
C'était un samedi après-midi. J'ai joué dans la rue en face de le centre Pompidou. J'ai rencontré un producteur de The Voice. Et il m'a dit, ah oui, j'aime bien te voir. Si t'es chaud pour faire une audition avec nous. Moi, j'ai pensé que j'ai rien à perdre.
Et rien à perdre, Marc va surprendre tout le monde.
When a couple of guys who were up to no good don't start making trouble in my neighborhood, I got one little fight and my mom got scared. She said,
étonnant, il y a des artistes complets et parfois d'autres plus bruts, comme Tiffen.
Somewhere,
Donc si tu le fais systématiquement, ça va saouler. En revanche, il est joli, donc essaye de le faire une fois sur deux pour commencer. Mais là, la petite, elle est vachement bien, Tiffen. Elle est bien. Mais moi, j'ai envie de parier et de dire, OK, on va faire le pari de mettre quelque chose d'hyper brut, de pas forcément prêt, quand c'est des talents qui te déposent ça sur les pieds.
Parfois, ça passe, mais parfois, ça casse.
La bohème, la bohème. Tu veux détourner la mélodie à un moment, ce que tu viens de faire. Modifier la mélodie, c'est toujours très mal vu. Ça veut dire que toi, tout petit Théo, 17 ans, tu peux proposer quelque chose de mieux que Charles Aznavour.
On propose rien de mieux que Charles Aznavour.
Il n'y a jamais de nom, mais on sent bien que là, ça ne passera pas.
L'Oréal t'appelle sous 48 heures. Ok, salut.
Salut. Oh, 20 000 postules chaque année. Bruno Berderes et ses équipes en trouvent eux entre 3 et 4 000 par an. 180 sont présentés à la chaîne. 130 sont retenus. Ce sont ceux que vous verrez dans les auditions à l'aveugle.
Et The Voice saison 7 est donc à voir samedi sur TF1. Ce sera en face de la finale d'En route pour l'Eurovision sur France 2 dont vous nous parliez très récemment. Isabelle Morini-Bosque.
Destination
Eurovision.
Oui, oh, on a compris.
Oh. Alors, on va balayer l'actualité musicale à présent. Bonjour Steven Mellery.
Bonjour à tous.
J'ai toujours des chouquettes à votre disposition. Hein. Alors, on commence par le retour d'Yves Duteil. 6 ans après son dernier disque, il vient de sortir Respect.
12 chansons inédites et un fil rouge, la bienveillance. Voici le morceau d'ouverture qui donne son nom au disque Respect.
Respect, c'est la force qui nous inspire pour pouvoir résister au pire. Faire face en restant debout, plutôt que de vivre à genoux.
Yves Duteil a ressenti une urgence d'écrire en janvier 2015 après les marches républicaines qui avaient fait suite aux attentats, notamment à Charlie Hebdo.
J'ai ressenti le besoin de témoigner, d'écrire. Il y avait quelque chose à dégager d'un petit peu plus universel dans ce rassemblement spontané, incroyable, paisible, mais déterminé. De façon étrange, il fallait que cet album soit le reflet de ce que j'ai ressenti, de ce qu'on a ressenti, mais pas forcément quelque chose de pesant, de lourd. On est quand même dans une époque remplie de crues, de violence, de paradoxe. On a assisté à l'effondrement de toutes les valeurs que l'on croyait les plus solides. Je travaille là-dessus depuis plus de 2 ans et aujourd'hui j'entends parler de respect, de bienveillance, beaucoup plus qu'avant.
Nous avons ce qu'il faut pour faire chanter le monde, à moins qu'il ne s'efface à jamais des mémoires. Assemblons nos efforts et que nos voix se fondent pour unir désormais tout ce qui nous sépare. Il faut surtout changer nos regards sur le monde, parce que rien de ce monde ne nous est étranger. S'il est vrai que l'espoir un jour peut refleurir.
À 68 ans, l'ancien maire de Précy-sur-Marne livre un disque élégant, poétique, un poil candide, mais plein d'espérance au fil du disque, l'interprète de prendre un enfant. Tend la main aux musulmans français, chante les valeurs de la famille, son piano centenaire et rend un hommage à sa femme Noël.
J'ai ressenti le besoin de témoigner, d'écrire. Il y avait quelque chose à dégager d'un petit peu plus universel dans ce rassemblement spontané, incroyable, paisible, mais déterminé. De façon étrange, il fallait que cet album soit le reflet de ce que j'ai ressenti, de ce qu'on a ressenti, mais pas forcément quelque chose de pesant, de lourd. On est quand même dans le jour de nos 40 ans de mariage, je lui ai écrit un poème que je lui ai offert, comme ça, le matin. Et c'était pas destiné à être une chanson, c'était vraiment une lettre en vers. Et puis, au fil du travail de l'album, m'est venu un petit début de mélodie, et puis la suite, et puis c'est devenu une chanson. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait authentique.
Vous dites qu'elle n'a cessé de vous pousser plus loin lors de la création de ce disque.
Quand elle me dit « Oui, c'est bien, mais je pense que tu peux aller plus loin. » Ça, c'est peut-être un peu long. Elle est mon premier auditeur parce qu'elle est probablement la plus exigeante de tous ceux qui aiment ce que j'écris. Bah, je l'écoute.
Donc vous diriez qu'une chanson d'Yves Duteil se fait parfois à 4 mains.
Oui, à 2 cœurs et à 4 mains. Cette chanson-là, pas tellement parce que j'ai pas changé grand-chose. Beaucoup, beaucoup des chansons de l'album ont évolué grâce à ses coups de gomme, autant qu'à mes coups de crayon.
La nuit qui nous a mis à nu aura fait de 2 inconnus des amants pour la vie entière. Depuis, je vis dans ta lumière. 40 ans plus tard, je t'aime toujours. Plus fort encore qu'au premier jour.
Respect, le nouvel album d'Yves Dutheil vient de sortir. Il est déjà en tournée à Marseille le 4 février, à Vernon le 22 mars ou à Reims le 8 avril.
C'est une bien jolie voix, hein, notre Yves Dutheil. Alors, dans les bacs également, Rather Than Talking, c'est le deuxième album de la chanteuse Olicy, Steven.
Oui, double musical de Cécile Cassel. Un peu plus de 4 ans après son premier opus, la chanteuse revient avec 11 morceaux, naviguant entre pop, reggae, rythme cubain et électro. Une des jolies surprises de l'hiver, à mon sens, exemple avec All About Now. S'étonne par le chemin vocal parcouru en si peu de temps, ça déborde d'énergie, c'est bien produit. Après une tournée de plus de 100 dates, la chanteuse de 35 ans a eu besoin de prendre le large, direction les États-Unis.
Mon passeport, c'est peut-être ce que j'ai de plus précieux, c'est la liberté, quoi. Évidemment, ça a été tout de suite aller voir du pays pour se redéfinir, parce qu'en fait, quand on voyage, on est obligé de se définir auprès des gens qu'on rencontre. Évidemment que New York, c'est pas un choix anodin quand on a besoin d'écrire un album. C'est une ville tellement riche d'énergie, de culture, donc j'y suis allée aussi pour puiser l'inspiration dont j'avais besoin.
Vous entrez dans une résidence d'artistes.
Oui, et j'ai rencontré des gens très différents qui venaient du monde entier. Et pour créer un projet, j'avais une monteuse qui habitait en même temps que moi, qui montait un documentaire magnifique. Il y avait un marchand d'art contemporain cubain.
Après, vous allez dans un appartement bruyant, vous dites.
Oui.
Et ce bruit va vous inspirer beaucoup de choses.
J'ai commencé à écrire dans un chaos sonore absolu, parce que j'étais dans un super petit appart, mais qui était au coin de deux avenues énormes, et où il y avait le passage des camions sur ces plaques en fer énormes. En même temps, je pense que tout ça a créé une rythmique qui a inspiré l'album obligatoirement.
Rather Than Talking, nouvel album d'Olicy, ça vient de sortir, tourné à partir du 6 avril à l'Olympia le 1er juin.
On va terminer avec le retour sur scène de Rock Voisine. Il chantait hier soir au Grand Rex à Paris, Steven.
Oui, j'avais beaucoup aimé l'album Devant Nous, paru il y a 9 mois. Rock Voisine y faisait un virage pop. Dans cette nouvelle tournée, Rock Voisine poursuit pied au plancher sur cette route. Appelle-moi encore de temps en temps. Appelle-toi comme on est tellement. Appelle-moi, ça me fera plaisir. Converse au pied, accompagné de 4 musiciens, Rock Voisine se balade dans 30 ans de chansons, plus crooner par moment. Le chanteur de 54 ans s'éclate avec cette nouvelle couleur musicale.
Je m'habitue encore, hein. Même moi ça me surprend un peu à tous les soirs, mais je pense que les gens qui viennent voir le concert sont plutôt favorables, parce que c'est assez surprenant de passer d'un univers à l'autre, L'idée était de commencer probablement le concert avec les nouvelles sonorités des nouvelles chansons. C'était un peu une prise de risque, c'était un risque qui était aussi un peu calculé. Il fallait surprendre des gens, surprendre mais pas perdre, essayer de rester actuel, de se renouveler. C'est pas évident, hein, c'est marcher sur des œufs constamment. Et moi pourquoi?
Rock Voisine est en tournée partout en France, ce soir à Béthune, mercredi à Lille, le 2 février au Mans ou encore le 23 février à Lyon. Tes envies d'ailleurs. Tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet du désir.
Mais dites-moi, qui est l'auteur de cette prise de son?
Mais c'est ma petite machine, mon petit Nagra.
Voilà, mon
ne
petit
me quitte pas.
Nagra, journal musical.
Avec ses petites mains.
Steven Bellery, dans quelques instants, Olivia Laurel, les Express et les surprises, comme chaque jour.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nos express du jour sont bien entendu préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Vous écoutez RTL, vous écoutez la radio et définitivement vous avez bien raison.
La Croix révèle ce matin le 31e baromètre de la confiance des Français dans les médias, sondage réalisé par Kantar Sofres. Et c'est la radio qui est en tête à 56%. Juste derrière, on retrouve la presse écrite, la télévision et Internet. Guillaume Goubert, directeur de la Croix, nous explique.
Internet continue à perdre en crédibilité. En revanche, il y a un chiffre qui est tombé, ce qui est celui de l'intérêt pour l'actualité, qui est au plus bas. Je pense que ça doit nous amener, nous tous, les radios, les télévisions, les journaux, à nous interroger sur ce que le public attend de nous. Il y a peut-être une forme de lassitude et de saturation par rapport à un flux d'informations extrêmement rapide où une information chasse l'autre, où on approfondit peu de choses. Je pense que le public est beaucoup en attente par rapport aux médias, mais peut-être pas exactement de ce que nous lui offrons aujourd'hui.
Le directeur de la Croix au micro RTL de Laurent Marsic.
Un casting étonnant sur scène pour les monologues du vagin le 7 mars prochain.
Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, à ses côtés deux ex-ministres, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri. La pièce d'Yves Hensler sera jouée au Théâtre Bobino à la veille donc de la Journée internationale de la femme le 7 mars.
Le 7 mars, c'est aussi la date de sortie en salle de Madame Mills, une voisine si parfaite, deux et avec Sophie Marceau. La bande annonce officielle vient d'être dévoilé.
Avec un Pierre Richard, comme vous ne l'avez certainement jamais vu, il incarne cette nouvelle voisine, une mamie américaine qui est en fait un homme travesti avec un but, dérober un objet de famille à Sophie Marceau. Extrait.
Je me présente, Léonard Rosenberg, escroc professionnel. Voici ma nouvelle victime.
Bonsoir, je suis Mrs. Mills, votre voisine nouvelle.
Excusez-moi.
Je suis enchantée de faire votre connaissance.
Elle possède, sans le savoir, une œuvre d'une valeur inestimable.
Dites-moi, Hélène, cet objet, là, dans la salle de bain, là.
Bon, moi, je vous en dis pas plus, mais il y a une scène qui a été tournée ici à RTL.
Oui.
Vous menez l'enquête,
c'est vrai.
On vous dira. Ben, alors, Neil Diamond, lui, est obligé d'annuler sa prochaine tournée. Le chanteur et compositeur américain est atteint de la maladie de Parkinson.
Diamond, qui fêtera ses 77 ans demain, ne se rendra donc pas en Australie et en Nouvelle-Zélande comme prévu en mars prochain. Il devait donner une série de concerts à l'occasion du 50e anniversaire du début de sa carrière.
Et puis avis aux jeunes écrivains en herbe, les candidatures pour le prix Clara Nouvelle d'Ado 2018 sont ouvertes.
Ce concours littéraire unique en France vous permet à vous, adolescents de moins de 18 ans, de vous faire éditer. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 mai au plus tard, vous pouvez envoyer une nouvelle par courrier ou email aux éditions Héloïse d'Ormesson. Les lauréats choisis par un jury présidé par Eric Orsena verront leur texte publié à l'automne prochain. Le prix Clara a été créé en hommage à une jeune élève passionnée d'écriture et décédée des suites d'une malformation cardiaque.
Les détails sont sur le site des éditions Héloïse d'Ormesson et sur le site rtl.fr, bien entendu. Alors, nous restons avec vous, Bernard Lehu.
Oui.
Puisque vous nous proposez ce matin la lecture du livre de Colomb Schneck, Les guerres de mon père. Il est publié chez Stock et c'est l'un des 5 ouvrages en compétition pour le Grand Prix RTL Lire 2018.
Oui, de livre en livre, Colomb Schneck raconte son incroyable roman familial. Cette fois, elle part donc à la recherche de ce père, trop tôt disparu à l'âge de 58 ans, alors que Colomb n'en avait que 23. Gilbert Schneck était un brillant médecin à la joie de vivre affiché trop ostensiblement pour ne pas avoir sa part d'ombre.
Oui, mon père était quelqu'un de très aimé. Je l'adorais, c'était mon père, mais il était toujours très souriant. Il avait beaucoup d'empathie pour les uns et pour les autres. Il répétait toujours à ses enfants et à ses proches, on ne parle pas des choses qui fâchent et on ne crée que des bons souvenirs. Donc il y avait une espèce d'élégance, une envie de vivre, d'être heureux. Il aimait les femmes, il aimait les beaux vêtements, il aimait les voyages, il aimait la beauté. Pour l'enfant que j'étais, c'était pas suspect, c'est merveilleux. Oui. Je vivais dans un monde un peu de enchanté. Et puis un jour, ce monde enchanté s'effrite d'abord parce qu'il est mort. Et puis la réalité, la vie n'est pas ça. La vie, c'est aussi le chômage, c'est aussi les maladies, c'est les tristesses quotidiennes. Et donc, il fallait que j'enquête qu'est-ce qu'il cachait, qu'est-ce qu'il fuyait donc.
Lorsque le père de Colomb Schneck fuyait, c'était tout simplement son passé.
Ces guerres qui donnent le titre de son livre, à commencer par celle de 39-45, petit garçon juif, Gilbert ne doit son salut qu'à l'héroïsme de Français ordinaires qui l'accueillent en Dordogne. Colomb Schneck a fouillé les archives locales et prend toute la mesure de l'intolérable acharnement des fonctionnaires de Vichy contre la communauté juive. Sa colère n'a d'égal que sa volonté de remercier celles et ceux qui ont sauvé son père.
En France, pendant la guerre, les Français désobéissaient et cachaient des Juifs chez eux. Donc j'ai retrouvé par exemple, il y a une avenue à Trélissac, qui est une avenue dans le faubourg de Périgueux, qui s'appelle l'avenue de Limoges pendant la guerre, où dans une maison sur deux, il y a une famille juive cachée. Ces gens n'ont jamais été remerciés. Et donc pour moi, c'était important d'aller dire merci, parce que je pense que si mon père avait gardé cette humanité, cette générosité, c'est qu'il savait qu'en chacun de nous, il y avait cette capacité d'aimer, de soutenir et d'accueillir. Et donc c'était important de leur dire merci et de citer leur nom.
Mais d'autres épreuves attendent le père de Colomb Schneck au sortir de la guerre.
L'assassinat de son propre père, un fait divers qui fait la une à l'époque et laisse libre cours encore une fois à un antisémitisme racoleur. Et plus tard, devenu jeune médecin, Gilbert est envoyé en Algérie.
Oui, il se trouve du mauvais côté. Il se retrouve du côté des bourreaux. Même si des actes de torture et de barbarie, il y en a eu de tous les côtés. Il doit soigner des hommes qui ont été torturés par l'armée française. Il n'a pas le choix, il doit soigner ses hommes sans pouvoir se révolter, sans pouvoir dire non. Comment on peut bien agir dans ces cas-là ? On soigne et on se tait. Encore une fois, la seule règle est le silence. Et il rentre en France en 61, il a 29 ans. Et la seule chose qu'il sait, qu'il croit savoir, c'est qu'on doit se taire. Donc pour avancer, pour vivre, pour aimer, pour se marier, pour avoir des enfants, on se tait. Et donc il va vivre les 30 dernières années de sa vie, comme ça, dans le silence et aussi dans la fuite permanente pour ne pas que le passé le rattrape. Parce que le passé est trop terrifiant.
Et c'est là la plus terrible des guerres que livre le père de Colomb Schneck, une guerre intime et permanente contre lui-même, contre la honte de ses origines, la culpabilité d'une faute qu'il n'a pas commise et qu'une vie entière ne saurait réparer, écrit joliment Colomb Schneck.
Oui, bien sûr, mon père était une angoisse permanente, une peur permanente. Quelqu'un m'a dit « être juif, c'est avoir peur ». Il y a beaucoup de situations où être étranger, c'est avoir peur, disons. Et donc, fuir, partir le plus vite possible, de femme en femme, d'endroit en endroit, de lieu en lieu, c'est un moyen de ne jamais être arrêté, condamné. Cette guerre qu'il a menée contre lui-même, en son cœur, dans son fort intime, disons, cette fuite et la raison de sa mort, je pense, aussi jeune, oui.
Alors Colomb Schneck, elle, décide de ne plus fuir, d'aller au-delà du miroir des beaux souvenirs créés par son père, de parler de ce qu'il n'avait cessé de taire. En lui désobéissant, eh bien, elle s'émancipe enfin de celui qui lui a donné la vie, mais elle lui offre en même temps une suprême preuve d'amour.
La seule chose que j'espère avoir fait, c'est en écrivant, en racontant, pouvoir me dire à moi, parce que mon père est mort, c'est trop tard, nous ne sommes pas coupables de nos errances en tout genre. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre, d'aller jusqu'au bout. C'est que je ne suis pas coupable de notre passé, de notre histoire d'exil, de migration. Mes quatre grands-parents sont venus en France dans les années 20, ils sont devenus français. Je suis une petite fille d'immigrée, je ne l'oublierai jamais, je ne l'oublie pas, ça fait partie de ma vie. Mais je ne suis pas coupable, je suis française, je participe à ce beau pays.
La honte n'est pas dans notre camp.
Oui, la honte n'est pas dans notre camp, oui.
Colomb Schneck signe « Les guerres de mon père », publié chez Stock, et donc l'un des cinq livres finalistes du Grand Prix RTL Lire 2018.
On a beaucoup de très beaux livres cette année dans cette finale.
C'est vrai.
Comme d'habitude, devrais-je ajouter d'ailleurs, dans quelques instants, notre télévision, signée Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Tout cela se fait comme d'habitude en deux temps. On commence avec les audiences de la veille et Médiamétrie Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, le véritable gagnant, c'est L'amour est dans le pré, encore en hausse par rapport à la semaine dernière. La seconde série de portraits. 3 600 000 personnes étaient devant la 6 hier, 18% du public de tous âges et beaucoup près de 22% des fameuses ménagères. C'est 400 000 téléspectateurs de moins seulement que Sam sur TF1, qui en rassemble 4 50 000 environ. Et alors, côté TNT, c'est W9 avec Taken, qui est évidemment en tête, avec plus d'1 020 000 téléspectateurs.
Alors, notre soirée télévisée, je sais que vous aimez Patron Incognito, bien entendu,
oui.
Sur M6.
Et ce soir, c'est très bien.
Voilà, Maison Signal, une nouvelle série américaine, Gone, sur TF1.
Oui, alors donc, rien à voir avec le terme d'argot lyonnais désignant des enfants, des gones. Cette série américaine est un partenariat entre le Luxembourg, RTL Group, TF1 et NBC Universal. C'est leur première collaboration. C'est l'histoire de Kit Lanigan, enlevé et séquestré à 5 ans par un prédateur sexuel et qui, 15 ans plus tard, devenu un as des arts martiaux, va rejoindre une équipe de FBI est chargé de retrouver des personnes séquestrées. Voici, dans son enfance, sa libération par l'enquêteur Frank Booth, incarné par Chris Noss et le Mr. Big de Sex and the City.
Tu as quel âge ?
10 ans, mais avant, mon anniversaire, c'était au mois d'avril. Mel a voulu qu'on change la date. En vérité, j'ai 11 ans. J'avais un chien avant. Je l'ai laissé sortir sans faire exprès.
15 ans plus tard, un curieux type se présente à son cours de karaté. Supposé novice, il est en fait aussi fort qu'elle.
Tu sais que tu peux pas casser cette prise sans te péter le bras.
T'es qui ? T'es
John Bishop, FBI.
Il dit la vérité, Kim. Il est avec moi. Beau boulot. Ça va aller, Bishop?
Voilà, c'est le même Frank qu'il a libéré 15 ans plus tôt et lui propose de rejoindre leur petite unité, justement très unie. Le plus de cette fiction, c'est une distribution solide. Bishop, c'est Danny Pino, Cold Case, New York Unité Spéciale. Et Kit, c'est Levin Rambin, vu elle dans True Detective, Grey's Anatomy et Hunger Games au cinéma. L'ensemble est efficace, rapide, hyperactif. Si vous aimez, mais pas clipesque, hein, si vous aimez Le Mentaliste et Les Experts, vous aimerez Gone. Mmh. Sinon, vous passerez à autre chose et votre chemin.
Eh ben, autre chose, c'est par exemple Tout le monde joue avec la musique sur la 2, une spéciale présentée par Nagui et Bruno Guillon.
Et en direct, oui, ça fait longtemps que le premier Nagui apprécie le second, Guillon. Les voici co-animateurs de ce divertissement permettant aux téléspectateurs d'évaluer leurs connaissances musicales tout en découvrant les secrets des chansons. Dès la bande-annonce, les deux rivalisent d'anecdotes.
Bon, Nagui, est-ce que t'es prêt?
Super prêt.
Devine qui joue ça?
Rolling Stone.
Bah, bien sûr. Toi, est-ce que tu savais que Keith Richards a eu l'idée du riff dans la nuit? Il l'a enregistré, il s'est endormi et le lendemain matin, il avait le riff et 40 minutes de ronflement. Je te jure.
Oh, non, je savais pas. Alors, attends.
D'accord. Moi. We will rock you, Queen, la batterie de Queen.
Oui, exactement. Est-ce que tu savais que justement, c'est pas la batterie? C'est que des frappements de pied, des claquements de main.
Mais non.
Mais je te jure.
Attention, et celui-ci, du air violon.
Voilà, ils ont donc les moyens de nous faire chanter dès 20h55 ce soir sur la 2.
Et vous,
moi,
vous
je suis
voulez
très cliente.
Bah oui, et vous voulez ensuite qu'on reste sur la même chaîne?
Ah oui, pour suivre un documentaire formidable, Le Roman Noir du 36 à 23h15. On le sait, après 104 ans passés au 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire parisienne a déménagé dans le 17e arrondissement en septembre dernier. C'est l'occasion de revisiter les lieux et leur histoire. Celui qui a médiatisé le 36 et ses occupants, c'est Simenon, qui le premier au début des années 30 crée un héros flic, Maigret, après déjà 200 romans. Ça se vend bien, sauf que le patron du 36, Xavier Richard, juge l'intrigue si incohérente qu'il invite Simenon à venir en stage chez eux durant plusieurs semaines. C'est là que le romancier découvre son Maigret, Victor Massu, célèbre pour ses interrogatoires interminables le soir sans violence. On écoute les deux.
C'est-à-dire que j'étais incapable d'écrire un roman sans meneur de jeu, sans cœur antique, comme on dit en littérature. Et j'ai trouvé qu'évidemment, d'avoir un commissaire dans un roman permettait tout le temps d'intervenir, permettait de pénétrer dans telle ou telle maison, de questionner les gens.
Et un homme comme moi, simple, qui marche comme tout le monde dans la rue, qui ne fait pas des pattes, toujours le nez aguet, qui sait faire des filatures. Lorsqu'il arrête un malfaiteur assez durement, se montre le plus gentil avec lui, aussitôt qu'il est arrêté. Fort fréquemment, j'en ai amené souvent ici au comptoir pour boire une consommation avant de les emmener au Quai des Orfèvres.
Et on suit évidemment l'évolution de la police scientifique, notamment le relevé des empreintes.
Des empreintes digitales sur la glace de la vitrine. Pour les relever, l'inspecteur les saupoudre dans de ses ruses. Un papier spécial permet d'en prendre le décal.
J'adore la musique de l'époque qui accompagne les infos pâtées.
Ça illustre.
Donc c'est formidable, c'est à 23h15 sur la 2, c'est 52 minutes passionnantes, pas une à enlever.
Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant pour accueillir Julien Courbet. Passez une excellente journée à l'écoute de notre radio. On a le plaisir maintenant de retrouver Julien Courbet.
Bonjour Yves, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Ah bah parfait, écoutez, nous on est là, on a deux avocates, on a des journalistes.
Oula,
on a tout ce qu'il faut.
Ça va barder.
Oh là là, quand il y a deux avocates et des journalistes, puis surtout on a Hervé Pouchol, et là que vous le savez, vous qui le connaissez bien, quand il est là en général, c'est pas du tout la même musique.
Non, pas du tout.
Allez, merci, à demain.
À demain.
Vous écoutez RTL.